Le goût d'entreprendre. Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.
Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission du Goût d'entreprendre. Nous recevons aujourd'hui Philippe Dagorneau de l'association 60 000 Rebonds. Dans Rebonds, il y a rebondir, vous aider les entrepreneurs qui ont fait faillite à prendre un nouveau départ. Il s'agit aussi de changer le regard de la société sur la faillite. On parlait de changer de regard, et si l'échec entrepreneurial devenait un tremplin? Comment faire face à la faillite lorsqu'on est chef d'entreprise? On ne met jamais la clé sous la porte de Gaieté de Cœur. Les incidences, les conséquences sur la vie privée et professionnelle sont nombreuses. Et c'est à ce moment-là que vous avez besoin de vous faire aider. C'est là que vous intervenez. Bonjour Philippe Dagorneau.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'association 60 000 Rebonds. Vous nous dites que tout le monde a droit à l'erreur.
Absolument. L'échec existe, simplement il faudrait que la société le regarde différemment et surtout que cet échec serve de leçon. C'est une période d'apprentissage aussi pour un futur rebond et un nouveau projet professionnel, qu'il soit salarial d'ailleurs ou à nouveau entrepreneurial, puisque nous accueillons des entrepreneurs qui vont vers ces deux voies à l'issue de leur faillite.
Voilà, on va en parler de ces profils, même s'ils n'en existent pas, vous allez nous le préciser, de chefs d'entreprise qui rebondissent. Mais qu'est-ce que ça veut dire faire faillite quand on est chef d'entreprise, concrètement ?
Alors concrètement, c'est une situation qui est une situation à un petit peu effet domino. Mm-hmm. La première chose, bien sûr, c'est que l'on perd son entreprise, souvent son bébé, ce qu'on a créé ou ce que l'on a repris avec beaucoup d'efforts et d'investissements personnels. La conséquence immédiate, évidemment, c'est que l'on se retrouve très souvent aussi sans revenus, ouais. Puisque peu de chefs d'entreprise ont, prennent la précaution de s'assurer préalablement à cette situation et donc n'ont plus accès à aucun revenu. Donc deuxième conséquence, et malheureusement très souvent troisième conséquence, eh bien des problèmes personnels et donc des éclatements de famille qui conduisent le chef d'entreprise à un dénuement total, et nous récupérons dans notre association des chefs d'entreprise qui se trouvent dans cette situation de grande précarité, à la fois morale, financière, personnelle.
Oui, alors comment se passe, s'aperçoit-on que ça ne va plus? À quel moment est-ce qu'on doit allumer le signal, allumer le feu rouge, en fait, en se dire là je peux plus continuer comme ça?
Alors, justement, vous touchez du doigt l'un des axes que l'on défend dans notre association 60 000 Rebonds. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on essaie de faire changer le regard de la société sur la faillite et sur l'échec. Plus le chef d'entreprise va réagir rapidement et tôt, moins les conséquences seront importantes. Malheureusement, ce regard négatif sur cette situation d'échec conduit le chef d'entreprise à s'entêter, souvent à creuser lui-même les difficultés auxquelles il va faire front et face par la suite, notamment en se surendettant, en signant des cautions bancaires, en partant dans une spirale négative qui, une fois le dépôt de bilan et la liquidation prononcées, vont le mettre à titre personnel dans une situation extrêmement délicate.
Parce que c'est dur justement d'admettre que ça ne fonctionne pas.
Absolument. Alors c'est dur de l'admettre, encore une fois, parce qu'on est confronté au regard des autres, sa famille déjà, et puis son environnement professionnel, ses banquiers, ses clients. Donc on continue, on va jusqu'au bout et on essaie de s'en sortir par tous les moyens, souvent dans la solitude la plus totale. Et on aboutit malheureusement finalement à cette fameuse liquidation qui plonge encore une fois le chef d'entreprise dans cette situation extrêmement difficile et délicate.
Parce que c'est humain, on comprend bien qu'il y a derrière ça toujours un espoir, l'espoir d'y arriver, de s'en sortir, que la situation s'inverse.
Exactement, exactement. On ne veut pas reconnaître que la situation est irréversible et que, encore une fois, plus vite on cesse et moins les conséquences seront importantes.
Quelles sont les raisons, Philippe, qui peuvent faire chuter une entreprise? Alors, il n'y a pas de réponse, je pense, elles sont multiples.
Tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas de réponse type. Dans notre association, nous recevons d'abord tout type d'entrepreneurs, aussi bien hommes que femmes, aussi bien jeunes que plus âgés, aussi bien des entreprises de petite taille, 2-3 salariés, que des entreprises de taille beaucoup plus importante, voire même des entreprises unipersonnelles avec simplement un chef d'entreprise seul. Donc déjà, il n'y a pas de profil à ce niveau-là. Et puis, il n'y a pas de raison type non plus de cette situation. Elles sont multiples. Ça peut être un retournement de marché. Ça peut être une concurrence qui vient s'installer à côté de chez vous et qui vous prive d'une grosse partie de votre chiffre d'affaires. Ça peut être un impayé d'un client. Ça peut être de différentes causes. Dans notre association, nous avons une valeur que nous défendons qui est la bienveillance. C'est la première de nos valeurs. Et cette bienveillance veut que nous ne posions pas de questions particulières à l'entrepreneur qui vient nous rejoindre. Nous ne cherchons pas à comprendre pourquoi il en est arrivé là.
Vous ne le jugez pas.
Nous ne le jugeons pas. L'association, j'aurai peut-être l'occasion de vous en parler, met à la disposition de l'entrepreneur des séances de coaching personnelles pour qu'il puisse retrouver la confiance qu'il a perdue. Et c'est lors de ces séances de coaching que très souvent l'entrepreneur se confie à son coach, mais dans la confidentialité la plus total, et les autres membres de l'association, qui sont tous des experts professionnels dans un domaine bien particulier, n'ont pas connaissance des échanges qu'il y a entre l'entrepreneur en rebond et son coach.
D'accord.
Ça reste tout à fait confidentiel, encore une fois pour des raisons de convivialité et d'empathie à l'égard de nos entrepreneurs.
Alors, jusqu'où va aller votre accompagnement et à partir de quand peut-il commencer ? Est-ce que, par exemple, quand l'entreprise a été mise en faillite, vous intervenez à ce moment-là ? Si toutefois le chef d'entreprise a envie de s'en sortir et de rebondir ?
Alors, effectivement, vous faites bien de préciser si le chef d'entreprise a envie de s'en sortir et de rebondir, parce que nous demandons à nos chefs d'entreprise d'être moteurs, d'être volontaires, d'être les acteurs de leur rebond. Nous ne sommes là que pour les aider. Donc ça, il faut qu'il y ait de leur part une volonté. Nous n'intervenons que sur des entrepreneurs qui ont déposé le bilan, dont la société a été liquidée. La période de difficulté ou la période de redressement judiciaire, nous n'intervenons absolument pas. Il faut que l'entreprise ait été liquidé pour que nous intervenions. Et notre accompagnement est plafonné, si je puis dire, à 24 mois, à quelques mois près, parce qu'on est toujours dans la bienveillance. Et si un entrepreneur a besoin de quelques mois de plus pour rebondir, bien évidemment, on ne va pas le mettre hors de notre circuit et hors de notre association au bout des 24 mois.
Alors, qui sont les gens qui interviennent justement dans l'association ? Ce sont des professionnels en exercice, des chefs d'entreprise ?
Alors, nous sommes bien sûr bénévoles. Nous avons une permanente salariée de l'association par région. Donc, pour l'Occitanie, nous avons une permanente. Tous les autres membres de l'association sont des bénévoles et sont effectivement des professionnels, soit chefs d'entreprise, soit salariés, professionnels dans un domaine bien particulier qu'ils vont mettre à la disposition des entrepreneurs dans le cadre de leur projet de rebond.
D'accord.
Et nous avons préalablement, comme je vous l'ai indiqué, des séances de coaching qui sont offertes par des coachs professionnels certifiés, ça nous y tenons, ce sont vraiment des professionnels du coaching qui commencent la période d'accompagnement en offrant 7 séances de coaching à chacun des entrepreneurs qui nous rejoint, de manière à permettre à cet entrepreneur, bien justement, de reprendre confiance en lui, de se remettre sur des bases et des fondations solides pour travailler son projet de rebond. Ils ne peuvent pas, la plupart du temps, commencer à rebondir tant qu'ils ne sont pas passés par cette phase d'accompagnement psychologique, parce qu'ils ont été beaucoup trop atteints, beaucoup trop secoués par ce qui leur est arrivé.
Alors vous-même, vous êtes aujourd'hui consultant en développement commercial.
Tout à fait.
Que vous apporte cette expérience justement dans le cadre de l'association ?
Alors écoutez, l'histoire de mon entrée dans l'association est un petit peu particulière. J'ai eu l'occasion d'assister à une conférence qu'a donnée le fondateur de 60 000 rebonds il y a maintenant 4 ans. Il est venu à Toulouse faire une conférence et dans ses propos, je me suis reconnu et je me suis souvenu de ma propre situation bien antérieure, puisque moi j'ai eu l'occasion de liquider une entreprise en 1997. Donc vous voyez que
c'est
très ancien, voilà. Et j'ai connu tout ce qu'il a raconté. Donc ça m'a parlé évidemment, et à la fin de cette conférence, je suis allé le voir en lui disant, écoutez, le jour où vous déciderez de monter une antenne de 60 000 rebonds sur Toulouse, appelez-moi, je suis intéressé. Et donc il s'agit de Philippe Rambaud, le président fondateur de cette association, et il m'a rappelé un an après, et voilà, et je suis rentré avec grand plaisir dans cette association que je préside depuis le mois de novembre de l'année dernière.
Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui les choses bougent, que la parole se libère ? On le disait dès le début de cette émission, hein, faire faillite, oser dire j'ai fait faillite, ça n'a pas marché, c'est tabou. Est-ce que ça change ?
Alors, les choses évoluent, ça change effectivement. Alors, très modestement, notre association y contribue par ses conférences données notamment dans les grandes écoles, par exemple, parce que on est face à des étudiants qui vont devenir pour beaucoup des chefs d'entreprise, qui peuvent être confrontés à cette problématique et qui, pour la plupart, n'ont jamais connu l'échec. Ce sont des étudiants brillants. Quand vous faites une conférence à l'ESSEC ou à HEC, ce sont des gens qui ont brillamment réussi leurs études secondaires, qui sont installés, qui ne sont pas forcément préparés à l'échec. Ouais. Et donc, il est de notre devoir de les alerter sur le fait que ça peut leur arriver, que ça arrive à d'autres et qu'il faut être solidaire, évidemment, de ceux à qui cela peut arriver.
Alors, comment c'est perçu, justement ? C'est judicieux de parler d'échecs avant même d'entrer dans la vie professionnelle et de les alerter ?
Alors, on parle d'échecs parce que ce mot, malheureusement, et on l'a dû le prononcer de nombreuses fois déjà depuis le début de notre entretien, ce mot, il existe, il faut bien le prononcer. Nous, on veut plutôt parler de phase d'apprentissage. Ouais. On considère que cette situation et cet échec ou cet accident de parcours, on doit en tirer profit, on doit apprendre, et d'ailleurs beaucoup le disent, moi le premier, je peux en témoigner, on apprend de ses échecs et on apprend un certain nombre de choses qu'on ne reproduira pas. On apprend aussi sur les gens, sur la relation humaine. C'est extrêmement riche, cette phase, à partir du moment où on est, encore une fois, bien dans sa peau et prêt à assumer cette phase de rebond.
Oui, voilà, à partir du moment où on a envie de passer à autre chose, où on est prêt, vous êtes dans l'accompagnement, mais vous n'êtes pas dans l'assistanat.
Absolument, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous souhaitons des entrepreneurs motivés et dynamiques et qui soient moteurs dans leur rebond. Donc nous les aidons, nous les accompagnons, nous les assistons, mais nous ne faisons pas à leur place. C'est à eux de prendre leur destin en main et de choisir surtout quel rebond ils souhaitent avoir, puisque une partie d'entre eux rebondissent directement dans l'entrepreneuriat. C'est à peu près entre 65 et 70% de nos entrepreneurs. Les autres, eux, repartent vers le salariat.
Le salariat, d'accord.
Parfois, pour une période transitoire, et on parle de job alimentaire, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'ayant aucun revenu, ils sont bien obligés, évidemment, d'aller chercher un emploi salarié pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Mais ça reste une phase transitoire, parce qu'un chef d'entreprise, il a ça un peu dans le sang. Et au bout de quelques temps, très vite, il a une idée, il a un projet et il s'appuie sur nous pour rebâtir un nouveau projet entrepreneurial. Je voudrais juste revenir un instant sur la vision de la société sur l'échec. Les choses évoluent et elles évoluent pas seulement avec 60 000 rebonds. Je vais vous donner un exemple très concret. J'étais hier en rendez-vous avec le président du tribunal de commerce de Toulouse, qui œuvre énormément pour la prévention.
D'accord.
Le tribunal de commerce, alors bien sûr, ça fait un peu peur. C'est un tribunal.
Quand on arrive là, effectivement,
on est jugé.
Oui.
Quand on en arrive là, on pense que tout est fini, qu'on va être condamné, qu'on va être jugé, etc. Il y a des hommes en robe. C'est quand même un cérémonial qui peut être très très impressionnant pour les chefs d'entreprise. Et l'actuel président du tribunal de commerce de Toulouse souhaite casser cette image en ayant des actions de prévention qu'il met en place et qui sont malheureusement méconnues.
Oui.
J'en profite pour en parler aujourd'hui, pour en parler, parce qu'il contribue évidemment à démystifier tout cela et surtout à dire aux chefs d'entreprise, dès que vous avez les clignotants qui s'allument, la moindre difficulté, le moindre problème, venez nous voir, nous avons des solutions, nous avons des aides que l'on peut mettre à votre disposition, qui ne sont pas des aides sanctions, qui sont vraiment des aides d'accompagnement pourquoi pas, et ça arrive fréquemment, éviter d'en arriver à la liquidation judiciaire.
Ça mérite d'être souligné. Le plus difficile, c'est d'oser se l'avouer et de le dire et de faire cette démarche.
Absolument. Et on revient à cette image que la société nous renvoie.
Absolument.
Et qu'il faudrait arriver à casser.
Ne partez pas, restez avec nous. On se retrouve tout de suite.
Le goût d'entreprendre, Doris Pradal.
Et seconde partie de cette émission, merci d'être avec nous sur Radio Présence. Nous recevons Philippe Dagorneau de l'association 60 000 Rebonds. Vous aidez les entrepreneurs qui ont fait faillite à prendre un nouveau départ. Bonjour Pierre-Yves Révillon.
Bonjour Doris.
Vous êtes un de nos référents éthiques sur Radio Présence et intervenez avec grand bonheur dans Le Goût d'Entreprendre. Première question à notre invité Pierre-Yves.
Bah, je voudrais poursuivre sur la lancée, puisque vous venez de dire que les choses commençaient à bouger dans la société par rapport à cette question du droit à l'échec, du droit à l'erreur. C'est quand même le cœur de votre association, mais il doit quand même y avoir pas mal de résistance dans les têtes quand même, parce que dans notre société, celui qui se plante, entre guillemets, c'est le loser, c'est celui qui va pas pouvoir s'en sortir, on va plus lui faire confiance, les banques vont plus lui prêter d'argent, etc. Est-ce que vraiment ça bouge au niveau des personnes que vous accueillez?
Alors, ce que vous venez de décrire en quelques mots est notre réalité quotidienne. Effectivement, on est considéré, lorsqu'on échoue, comme un loser, comme quelqu'un en qui on ne peut plus, on ne doit plus avoir confiance. Il y a eu déjà des avancées techniques, notamment la cotation Banque de France, le fameux 0,40 qui était affecté aux entrepreneurs ayant défailli, a été supprimé. Donc il y a des choses qui avancent et qui vont contribuer à ce que cette image change. Et puis, bien, on essaie, nous, par notre action, de montrer par les rebonds de nos entrepreneurs que l'échec n'est pas définitif et qu'on peut effectivement rebondir. Nous avons, je n'en ai pas encore parlé, mais nous avons dans notre association des entrepreneurs ayant rebondi. On les qualifie comme tels tout simplement parce que après être passé par notre association et avec leur détermination et leur courage, ils ont réussi à rebâtir un nouveau projet et ils sont dans la réussite. Mmh. Alors cette réussite, une fois de plus, elle n'est jamais définitive, il peut de nouveau y avoir un accident, mais en tout cas ça prouve que bien aidé, bien accompagné et avec la volonté de réussir, on peut avancer et on peut apprendre d'un échec en fait et fortifier ses compétences au travers de cet échec que l'on a pu vivre. Dans les pays anglo-saxons, la vision est totalement différente.
C'est ça,
je vais vous donner un exemple très simple. Vous parliez de banquiers, je vous parlais de la cotation 0,40. En France, évidemment, c'est très difficile de retrouver un financement lorsqu'on a connu cette situation. Même si le 0,40 n'existe plus, on a beaucoup de difficultés parce qu'on a un passif, hein, un passé, mais aussi un passif. Aux États-Unis en particulier, un entrepreneur qui a subi une défaillance est vu comme au contraire quelqu'un de beaucoup plus fiable qu'un novice. Tout simplement parce que les anglo-saxons ont compris qu'il avait pu apprendre de cet échec et que ce qu'il avait fait trébucher une fois ne le ferait probablement pas trébucher une seconde. Et donc il y avait tout lieu de l'aider à
rebondir. De lui faire confiance.
De lui faire confiance et de l'aider à rebondir.
Ouais. Pierre-Yves.
Je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec un propos qui était tenu par un candidat à la présidentielle qui a dit « Je revendique le droit à l'échec, à l'erreur pour ceux qui essaient, pour ceux qui font ». Alors il a eu un certain succès puisqu'il est maintenant au sommet de l'État. Est-ce que vous attendez quelque chose? Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle donne qui va s'enclencher à partir de ce propos?
Bah écoutez, nous ne pouvons qu'être satisfaits si ces propos sont traduits dans les faits, bien évidemment. Toute aide que nous apportera l'État, que nous apporterons les institutions pour changer ce regard et pour améliorer les choses pour nos entrepreneurs, je pense tout simplement au fait qu'ils puissent devenir indemnisés lors de l'échec et lors de la liquidation judiciaire, ça ne peut qu'améliorer évidemment le sort de nos entrepreneurs en rebond.
Alors, dans cette question de l'échec, on voit bien qu'il y a des causes diverses, extérieures, etc. Mais on voit bien aussi qu'il y a une composante psychologique qui est assez forte au niveau des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui sont confrontés à cette situation de faillite. Et donc, dans l'accompagnement que vous proposez, notamment le coaching, on voit bien que ça va être très personnalisé. Mais où se situe, je dirais, cette analyse de l'échec? Qu'est-ce qui ressort le plus? Est-ce qu'on est plus sur des aspects entrepreneuriaux ou est-ce qu'on est plus sur des aspects personnels, psychologiques, etc.? Qu'est-ce qui est déterminant dans le rebond?
Alors, bien sûr, au niveau du coaching, on est plus sur un aspect psychologique, un aspect personnel. C'est vraiment la reconstitution de l'estime de soi que le coach a pour mission de réaliser avec l'entrepreneur en rebond. C'est le préalable à tout nouveau projet, à toute nouvelle idée de rebond. Nous avons, lorsque l'on reçoit pour la première fois un entrepreneur en rebond, ce que l'on appelle un comité d'agrément, qui est composé d'un expert métier, d'un coach et de l'entrepreneur en rebond. Et nous avons pour objectif, lors de ce comité d'agrément, de vérifier, grâce au coach évidemment, l'état psychologique de l'entrepreneur qui vient nous voir. Tout simplement parce que si son état psychologique est trop dégradé, nous ne le prenons pas, non pas qu'on le refuse et qu'on le rejette, bien évidemment, mais on va essayer de l'orienter plutôt vers un psychologue, voire un psychiatre. Ça nous est déjà arrivé, parce qu'il faut être conscient de nos compétences, et le coaching n'est pas la psychiatrie ou la psychologie. Donc, il faut laisser à chacun ses compétences et son métier. Mais notre rôle est, bien évidemment, de mettre en lumière la difficulté de cet entrepreneur et de l'envoyer vers une cellule qui soit beaucoup plus à même de résoudre son problème.
Pierre-Yves.
Par rapport à ça, j'ai lu un témoignage qui m'a un peu interpellé. Il y a une femme entrepreneur qui dit « Moi, j'ai vécu le syndrome des 3D, dépression, divorce, dépôt de bilan. » Et apparemment, elle s'en est sortie puisqu'elle témoigne.
Tout à fait.
Vous en avez beaucoup, des cas comme ça ?
Nous en avons énormément. C'est effectivement, alors pas forcément dans l'ordre que vous indiquez. Parfois, le dépôt de bilan arrive avant le divorce et la dépression. D'ailleurs, c'est souvent le dépôt de bilan qui conduit à la dépression conduit à l'éclatement de la famille et au divorce. Et puis on peut rajouter aussi, bien sûr, la précarité qui vient rajouter à tout cela une dose négative.
Philippe, un beau succès. Alors, on va à quelque chose de très positif. Est-ce qu'il y a, dans toutes ces années d'accompagnement, une entreprise qui vous a particulièrement marqué ou un chef d'entreprise qui a fait un rebond extraordinaire ?
Alors, Je n'en citerai aucun pour ne pas en oublier, mais nous avons énormément de chefs d'entreprise attachants. Déjà, c'est un formidable vivier de bonnes et de belles personnes que nous rencontrons. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Et nous avons des rebonds qui sont assez extraordinaires parce que nous avons des rebonds souvent qui correspondent à des passions, qui correspondent à des envies.
Ah oui.
Et on se retrouve avec des chefs d'entreprise qui ont échoué dans une activité qu'ils faisaient et qui leur plaisait, bien évidemment, mais qui n'était finalement pas celle qui était vraiment l'activité de leur vie. Et on en voit qui repartent dans d'autres activités qui sont de véritables passions, et ils n'auraient jamais pensé pouvoir réaliser ce rebond s'ils n'avaient pas échoué préalablement. Donc, quelque part là, je serais presque jusqu'à aller vous dire, le rebond et l'échec a été salutaire pour ces personnes,
voilà.
Et ça a été un tremplin.
Comment le transformer en tremplin ? C'est fabuleux parce qu'on peut se dire, non, ça c'est pas pour moi, jamais j'aurais imaginé travailler dans ce domaine. Donc tout est possible et à n'importe quel âge ?
Alors à n'importe quel âge, et souvent pour une raison très simple, c'est que ce sont des entrepreneurs qui sont dans une telle situation qu'ils n'ont plus rien à perdre.
Ouais.
Donc ils sont prêts à tout tenter. Et nous les aidons et nous les orientons vers leur passion, parce que pour réussir encore mieux, je crois qu'il n'y a rien de mieux que la passion. Donc si leur passion est celle-là, ben, il faut qu'ils aillent jusqu'au bout de cette passion et qu'ils tentent.
Eh oui. Notre question, Pierre-Yves.
Oui, ce que vous proposez aux personnes, c'est une forme d'accompagnement avec du coaching, etc. Vous êtes une association, ce sont des bénévoles, donc ce sont des prestations gratuites. Est-ce que vous ne faites pas concurrent aux professionnels du coaching, aux cabinets conseils, etc.
Alors, on pourrait dire ça, effectivement. On peut estimer qu'on fait concurrence, notamment au coaching. Mais comme je vous l'ai dit, les entrepreneurs en rebond que nous aidons sont des gens qui sont dans des situations économiques extrêmement difficiles, qui n'iraient jamais payer des séances de coaching parce qu'ils ne le peuvent pas. Donc c'est une fausse concurrence, si je puis dire. Par contre, rien ne les empêche, au-delà de notre accompagnement, une fois qu'ils ont rebondi et s'ils en ont senti le bénéfice et le besoin, de retourner vers d'autres coachs que les nôtres, puisque notre éthique veut que nous ne tirions absolument aucun profit, aucun revenu, quelle que soit notre activité professionnelle, des entrepreneurs en rebond que nous accompagnons.
Mais vous avez quand même des soutiens assez solides. J'ai vu qu'il y avait des organisations professionnelles, le MEDEF, la CPME, une très grosse entreprise, le plus gros groupe mondial leader d'audit qui s'appelle EY. Comment se positionnent-ils ? Pourquoi sont-ils avec vous ? Pourquoi vous soutiennent-ils ?
Alors, bah, je dirais très simplement parce qu'ils adhèrent à notre cause et qu'ils considèrent que notre travail est bénéfique. Donc, effectivement, vous avez cité quelques-uns de nos partenaires, mais nous avons aussi des partenaires institutionnels comme la région, par exemple, qui nous soutient un peu partout en France, hein, puisque nous ne sommes pas représentés qu'à Toulouse. Nous avons une représentation nationale avec environ 500 experts donc bénévoles sur l'ensemble du territoire français, 17 antennes régionales et environ 300 entrepreneurs en rebond accompagnés à ce jour. Donc un palmarès qui est tout à fait satisfaisant et dont nous sommes très fiers.
Et si je reviens à vos bénévoles, qu'est-ce qui les motive finalement ?
Alors, bah, ce qui les motive, c'est de donner de leurs compétences, de partager un certain nombre de valeurs avec des gens qui en ont besoin. Ce sont toutes ces choses-là qui nous animent. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous faisons de très très belles rencontres. Donc, c'est la raison pour laquelle nos bénévoles, d'ailleurs, je constate depuis l'origine de l'association, donc depuis plus de 4 ans maintenant, qu'il y a des bénévoles qui sont toujours présents et qui continuent année après année à renouveler leur participation à notre cause.
Philippe, on terminera là-dessus puisque nous sommes un peu pris par le temps. Quel est le budget pour être accompagné ? Parce que vous faites ça, bon, on a bien compris, vous, bénévolement, mais est-ce que vous demandez une participation ?
Alors, qui est symbolique, la participation aux frais que nous demandons aux entrepreneurs en rebond s'élève à 30 euros. Donc, vous voyez que c'est tout à fait symbolique. Mais nous tenons malgré tout à ce qu'il y ait cette participation dans l'esprit de ce que je vous disais tout à l'heure, de l'implication et de la motivation des entrepreneurs en rebond. Et puis, parce qu'il y a une phrase que j'aime bien prononcer, je considère que tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur, et comme j'estime que notre participation est tout à fait bénéfique et a de la valeur, eh bien, les entrepreneurs en rebond se doivent d'y participer économiquement aussi, même si souvent ils sont dans des difficultés qui font que c'est difficile pour eux, et en général nous trouvons des solutions.
On peut vous joindre facilement, vous nous rappelez l'adresse de votre site internet.
Alors vous pouvez nous joindre facilement donc, sur le site www.60000rebond.com et vous pouvez donc nous joindre aussi au 06 61 88 42 97 où vous aurez Ségolène Deblaye qui est notre permanente sur la région Occitanie.
Merci beaucoup Philippe Dagorno. 60 000 rebonds, c'est le nom de votre association. Vous pouvez retrouver cette émission sur la chaîne du Goût d'Entreprendre sur YouTube et également en podcast si vous souhaitez nous joindre, entreprendre@radioprésence.com.
Retrouvez cette émission sur decideurenregion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.